C'est ce qui nous amène à la chronique des apatrides anonymes avec Simon. Alors, bonjour Simon.
Salut Christian, bonjour Simon. Maison, un peu partout, pogné dans la tempête. Beaucoup de sujets aujourd'hui. On ne parlera pas du projet de loi antiterroriste du gouvernement Harper, le projet de loi C-51. On va prendre le temps de gérer tout ça, premièrement. C'est assez gros. C'est assez hallucinant aussi. Et probablement dans la prochaine chronique, dans 2 semaines, Mathieu vous en parlera plus en profondeur. Donc, on va passer ce sujet-là pour l'instant. Des sujets de chronique aujourd'hui, gouvernement du Québec qui devient une agence de placement. Je vous explique ça un peu tantôt. Des changements politiques à venir en Grèce à propos de l'immigration. C'est qu'on a un nouveau gouvernement là-bas. C'est pas juste des mesures anti-austérité qu'on promet. Donc, il y a quand même tout un volet immigration qui est assez intéressant. Donc, je vous en parle. Tout d'abord, j'aimerais rappeler un cas d'expulsion de la semaine passée qui a été quand même pas mal médiatisé. Cette famille Rome de Montréal, Monsieur Chilazi, Madame Nemeth et leurs enfants. C'est quasiment un cas d'espèce de tout ce qui marche pas dans le système d'immigration et de statut de réfugié actuellement au Canada. Donc, situation abjecte, on pourrait dire. Les parents et leurs plus jeunes enfants sont expulsés et leurs 2 enfants les plus âgés peuvent rester. Tous les recours ont été épuisés. Il n'y a pas eu d'évaluation des risques avant l'envoi. Ça, c'est un privilège, entre guillemets, qui leur a été refusé. Le ministre Chris Alexander a refusé, comme d'habitude, d'utiliser son pouvoir discrétionnaire. Je pense qu'il ne l'a jamais fait. Je pense que son prédécesseur, M. Kenny, ne l'avait jamais fait non plus. La Hongrie est placée sur la liste très arbitraire des pays jugés sûrs par le gouvernement fédéral. Donc, malgré plusieurs études, malgré le fait que tout le monde sait que la situation des Roms en Hongrie et en Europe de l'Est en général et en Europe en général est très difficile, ben on semble pas vouloir vraiment s'en préoccuper. On semble dire que la Hongrie est un pays sécuritaire pour tout le monde. On parle même dans certaines études de situations pré-génocidaires. Donc, c'est extrêmement grave et on renvoie des personnes roms qui ont été victimes de violences dans le même contexte duquel ils viennent. Donc, un genre de vice de procédure, finalement. Comme je disais, la famille est séparée parce que 2 des enfants peuvent rester et les parents et les plus jeunes enfants sont expulsés. Ce sont 2 commissaires différents qui ont jugé les 2 dossiers. Par contre, les 2 dossiers sont basés sur les mêmes témoignages, la même preuve. Donc, on peut quand même se poser la question comment sont appliquées les lois, comment le statut de réfugié est attribué. Je tiens quand même à souligner le nom de la commissaire qui a refusé le statut de réfugié aux parents et aux plus jeunes enfants. C'est Anna Brichy, elle s'appelle. Nommé par Kenny il y a quelques années, par Jason Kenny, aucune expérience en droit, aucune expérience en immigration. Un des plus hauts taux de refus parmi la commission du statut de réfugié, donc un taux de refus qui est calculé à 93% selon le Toronto Star. Je vais terminer ce sujet-là sur une citation du communiqué de Solidarité sans frontières qui exprime un peu l'hypocrisie actuelle dans laquelle on baigne. Donc, hier marquait le 70e anniversaire de la libération de Auschwitz, où environ 23 000 Roms ont été systématiquement massacrés. De 1939 à 1945, 500 000 Roms ont été assassinés en Europe. Cela s'est produit dans l'ombre des violences nazies à travers l'Europe. Cette même violence raciste, usant des mêmes symboles et du même langage qui est en hausse aujourd'hui en Hongrie et dont la famille a été victime. Donc, voilà. Je vais passer au sujet suivant. Le titre de sujet que j'avais, c'était « Le gouvernement du Québec devient une agence de placement ». Marie-Ève des Apatrides me suggérait ce titre-là, ou « Importation des ressources naturelles ». Je m'explique. En fait, je veux parler du gouvernement, du plan du gouvernement Couillard en immigration, qui a été annoncé lors d'un assez long discours, une assez longue conférence de presse par la ministre de l'Immigration du Québec, Kathleen Veale, on apprend qu'on souhaite une réforme inspirée de celle de Harper et de celle de Jason Kenney. Donc, j'imagine qu'on juge que cette réforme-là était un succès. On veut appliquer la même chose à Québec. Ou, sachant que M. Couillard est proche des dirigeants saoudiens, je ne sais pas si on veut une immigration esclavagiste comme en Arabie saoudite. Je crois que j'exagère peut-être un peu. Donc, sans aller aussi loin, beaucoup d'éléments actuellement nous permettent quand même d'être inquiets à l'heure actuelle. Donc, on souhaite une réforme en profondeur du système d'immigration québécois. Un peu de contexte, on sait que le Québec est la seule province canadienne qui a son propre ministère de l'immigration qui sélectionne d'abord avant l'approbation finale qui vient du palier fédéral, sauf dans les cas de statut de réfugié où les demandeurs demanderaient qui traitent directement avec Ottawa sans pouvoir d'ingérence de la part de Québec. Donc, actuellement, les critères les plus déterminants par Québec dans le choix des personnes qui seront sélectionnées, c'est à peu près la même chose depuis une vingtaine d'années, ça n'a pas été modifié. Donc, connaissance de la langue française ou francisation, niveau de scolarité, capacité d'intégration. Donc, on nous promet une grande consultation publique pour essayer de brasser tout ça. Les éléments qui vont être évalués sont déjà déterminés, même si on parle de consultation publique. Donc, on veut réévaluer le nombre annuel d'immigrants, de personnes immigrantes au Québec, qui tourne autour de 50, 55 000 annuellement. On veut revoir le mode de sélection, les pays privilégiés. On veut revoir la notion de la connaissance du français, les compétences, l'éducation. On insiste beaucoup sur une certaine régionalisation de l'immigration. Donc, on souhaiterait que les personnes migrantes ne s'établissent pas seulement à Montréal. On insiste beaucoup sur l'intégration. On pense que la régionalisation serait une façon d'intégrer les personnes migrantes au Québec. Et on veut rajouter peut-être des notions de partage de valeurs communes. Donc, je sais pas, peut-être en lien avec le cadavre de la Charte des valeurs. Là, on verra qu'est-ce qui se passe avec ça. Je vous lis des extraits rapidement du discours de Mme Ville sur cette réforme annoncée de l'immigration au Québec. L'accent sera mis sur l'économie par une meilleure adéquation entre le recrutement des immigrants et les besoins de main-d'œuvre. La clé, dénicher les candidats ayant le bon profil pour occuper les emplois vacants. Je poursuis. Les employeurs seront donc invités à préciser leurs besoins de main-d'œuvre et à définir le profil du travailleur qualifié idéal à attirer chez nous, secteur par secteur, région par région. Donc voilà, on va probablement assister à une lente privatisation de l'immigration au Québec dans les prochains mois, dans les prochaines années, suite à ces consultations, le terme que je mets entre guillemets, parce que le processus risque d'être évidemment un peu biaisé. Aussi, je ne crois pas que ce soit un sujet qui va nécessairement occuper l'actualité beaucoup ou enflammer l'opinion publique. L'immigration, c'est rarement un enjeu qui intéresse énormément les gens, donc ça risque peut-être de passer un peu sous le radar. Surtout que, bon, on connaît le contexte actuel, on a parlé, un des intervenants plus tôt dans l'émission, on parlait de l'austérité au Québec, tous les programmes, tous les services publics, toutes les institutions sont à peu près attaquées également de manière très frontale, de manière très directe. Donc, une petite réforme de l'immigration en douce derrière tout ça, ça risque de passer assez facilement, malheureusement. Je tiens à souligner que dans ce long discours de la ministre, il n'y a eu aucune mention, évidemment, de l'aspect humanitaire de l'immigration. Ça, c'est quelque chose qui est évacué. Ben, en fait, même pas évacué, qui est carrément ignoré. Une autre question peut-être à se poser, c'est pourquoi avoir un système d'immigration parallèle au Québec si c'est pour l'arrimer complètement au système fédéral? Est-ce que c'est pour, un peu comme l'a fait la réforme Kenney, se plier davantage aux exigences des minières, des pétrolières, qui sont des secteurs très proches de Harper et de M. Couillard, il faut le souligner aussi. Un autre aspect bien, qui est ressorti, j'en parlais tantôt, l'intégration, la régionalisation, on parle beaucoup de ça, donc on voudrait envoyer la plupart des personnes migrantes vers des régions, on donnait comme exemple la Côte-Nord et la Gaspésie, donc qui sont des régions ressources, la Côte-Nord pour le plan Nord, exploration, exploitation pétrolière dans le Golfe. Même chose pour la Gaspésie, où on pense vouloir extraire du pétrole bientôt. Donc, on veut probablement envoyer des travailleurs manuels de plus en plus dans ces régions-là, au royaume des minières et des pétrolières. Donc, c'est un peu hypocrite. On nous dit que cette régionalisation de l'immigration serait là pour favoriser l'intégration des personnes, alors qu'en même temps, on détourne des fonds fédéraux destinés aux organisations communautaires qui s'occupent de francisation, qui s'occupent d'intégration. On coupe dans le financement des organismes. Bref, il y a certaines contradictions là-dedans. Du Québec, on va passer à la Grèce sans autre lien. Donc, victoire jugée quand même historique de la gauche du parti Syriza avec le premier ministre Alexis Tsipras. Donc, en plus des mesures sociales et anti-austérité qui ont été annoncées, comme il y a tout un discours sur l'immigration, il y a énormément de mesures qu'on veut mettre en place pour essayer de corriger une situation qui est assez compliquée actuellement en Grèce depuis plusieurs années. Donc, le contexte, les gens connaissent un peu la Grèce, c'est la principale porte d'entrée de l'immigration en Europe et de loin. C'est suivi par l'Italie ou l'Espagne, je ne me rappelle pas dans quel ordre. Mais bref, la Grèce doit passer à peu près 100 000 personnes, c'est des chiffres estimés évidemment, annuellement, que ce soit par voie maritime, par la Méditerranée ou par voie terrestre via la Turquie. 2015 seulement, on prévoit qu'environ 40 000 personnes syriennes vont arriver en Grèce. Donc, c'est beaucoup plus que l'Italie et l'Espagne. Et la Grèce a quand même tout un défi à ce niveau-là. Donc, malgré tout, avec les gouvernements précédents, on compte très peu de personnes réfugiées comme telles en Grèce. On en compterait seulement 3 500. Je trouve ça très peu. Je pourrais revérifier ce chiffre-là. La Grèce qui a un taux d'acceptation des demandes de statut de réfugié de seulement 19 %. Beaucoup moins que la moyenne européenne, qui est quand même à 50 %, ce qui m'a étonné aussi. Le Canada, juste pour faire une petite parenthèse, je crois que c'est à peine 10 % le statut de réfugié au Canada. Il y en a pratiquement plus. Autre élément de contexte, en Grèce, bien, énormément de renvois sommaires, de violences, des milliers de personnes parquées dans des camps qu'on qualifie souvent de ghettos, dans des conditions sanitaires pas très bonnes, dans des centres de détention, dans des lieux de fortune où on parque plus ou moins l'immigration. Donc, le nouveau parti au pouvoir annonce quand même qu'il veut encourager le phénomène d'immigration massive, instaurer le regroupement familial, faciliter les naturalisations, donc accélérer, augmenter le nombre de personnes naturalisées, allonger les durées de séjour, il veut prôner l'égalité des droits entre personnes grecques et entre personnes migrantes. Je vais vous citer Vassiliki Katrivanou, la madame responsable des politiques migratoires du parti. Syriza s'oppose fermement à la diabolisation des immigrants et aux mesures antidémocratiques telles que les camps de concentration et les murs frontaliers. Donc, on souhaite, en plus des mesures dont je parlais tantôt, améliorer les conditions de vie dans ce qu'on appelle justement ces ghettos-là, qui sont des genres de camps ou de centres de rétention, centres de détention. On veut aussi traiter le plus rapidement possible tous les dossiers accumulés depuis les dernières années. Donc, il y en a des milliers. Donc, c'est quand même très rafraîchissant d'entendre un discours comme ça. On va voir si les mesures réussissent à être mises en place parce qu'il y a quand même des obstacles qui vont se présenter. Donc, le parti au pouvoir est minoritaire. Je pense qu'il lui manque seulement 2 sièges pour être majoritaire, mais il doit jouer avec une situation de gouvernement minoritaire. Donc, est-ce qu'il va pouvoir gouverner par décret? Est-ce qu'il va pouvoir imposer ses mesures? Je connais pas assez les rouages de la politique grecque là, pour vraiment me prononcer là-dessus, mais ça va être difficile, c'est sûr. Il va devoir faire des alliances avec des partis qui partagent pas ses vues et qui sont même certains ouvertement racistes. Il y a toute une fonction publique, la sécurité publique, les gardes-côtes, les gardes frontaliers, les agences de sécurité. Toute une culture a changé au niveau de ces personnes-là qui travaillent pour le gouvernement. Il y a des milices néo-nazies relativement violentes, ben, très violentes même, qui sont ou non affiliées au parti néo-nazi Aube Dorée, qui sont toujours actives. Donc, il y a toute une culture, tout un énorme changement de machine à renverser. Il devrait y avoir quand même pas mal de résistance à ce niveau-là. L'existence même de ce gouvernement-là, j'ai quand même des craintes. Donc, à l'intérieur même de la Grèce et au sein de l'Union européenne, je pense que beaucoup de forces hostiles vont s'unir pour tenter de faire tomber ce gouvernement-là, ou au moins faire en sorte que ces mesures échouent, que ce soit celles liées à l'austérité, à l'économie ou à l'immigration. Donc, on peut s'attendre à beaucoup de résistance aussi de la part des gouvernements allemands, français, britanniques qui font partie de la forteresse européenne. Beaucoup de résistance de la part du FMI, des banques. Donc, ça va être difficile. Donc, on va espérer quand même que ces mesures-là puissent être appliquées au moins en partie. Aussi, autre défi de Syriza veut renégocier l'accord de Dublin qui prévoit que le premier pays d'accueil où les gens arrivent sont le pays où les demandes sont traitées. Donc, veut espérer un certain repartage de cette responsabilité-là. Donc, je termine. Il semble avoir une fissure dans la forteresse européenne. On va tout simplement espérer que l'Union européenne n'exclut pas la Grèce de son ensemble politique pour construire ses murs plus au nord. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Une bonne soirée.
Merci beaucoup, Simon, et merci pour cette toujours très intéressante chronique des apatrides anonymes.